Vous écoutez RTL. RTL.
Jusqu'à 22h,
la curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, on est ravis de vous accueillir dans la curiosité. Salut à vous Thomas.
Comment ça va Sidonie?
La pêche.
Pleine forme en ce week-end de l'Ascension. Bienvenue à vous les curieux, on est ensemble jusqu'à 22h avec au programme une guerre. Celle qui opposa catholiques et protestants pendant plusieurs décennies à la fin du XVIe siècle. On vous emmène dans les rues de Paris en 1588. Quand le duc de Guise faillit prendre le pouvoir et devenir roi de France.
À propos de roi de France, saviez-vous que Louis XIV raffolait des petits pois, que Joe Cocker avait une passion pour les tomates et que Michelle Obama cultivait les courges et autres cucurbitacées. Pas facile à dire,
non,
la Maison Blanche.
Ça.
Je vais peut-être me tromper pendant l'émission, on ne sait jamais, vous saurez me reprendre.
Oh bah oui,
on part visiter les jardins secrets des plus grands dans la curiosité. Et maintenant, à vos sacs à dos.
La curiosité est un vilain défaut.
À l'aube du Moyen-Âge, un grand rêve collectif jette sur les routes princes et pauvres.
RTL.
Des quatre coins de l'Europe médiévale, c'est tout un peuple qui se met en marche vers un petit sanctuaire de Galice espagnole. C'est le pèlerinage vers Santiago de Compostelle.
Jusqu'à 22h.
Aujourd'hui, les pèlerins du monde entier empruntent ces chemins de lumière.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Chaque année, des milliers de pèlerins cheminent vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils choisissent l'un des nombreux chemins qui y mènent. Mais qui est ce saint qui fait marcher autant de gens du monde entier? Quelle est l'histoire du pèlerinage? Quels sont ses grands moments? Et puis à quoi ressemblent aujourd'hui ces chemins? On prend la route ce soir avec Philippe Lemonnier. Bonsoir.
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 Vous êtes écrivain, voyageur et pèlerin aussi, j'imagine.
Et pèlerin, par la force des choses, puisque le pèlerin est celui qui voyage en dehors de son champ. Et donc, je voyage en dehors de mon champ.
Quand vous êtes entré dans le studio et qu'on s'est présenté, vous avez dit « Bonjour, marcheur, je suis marcheur
oui, ». Absolument.
C'est presque un métier ou c'est quoi? C'est une qualité, une façon d'être
hein. Voyageur à pied, c'est une philosophie de vie, de voyager à pied, qui est un peu différent d'ailleurs de la randonnée.
Vous avez fait plusieurs, Philippe Lemonnier, plusieurs pèlerinages à Saint-Jacques-de-Compostelle?
Ah non, je n'ai fait qu'un seul pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle.
On n'en fait qu'un?
Il y a des gens qu'on appelle les collectionneurs qui en font plusieurs, mais j'ai pour habitude de penser qu'on ne renouvelle jamais les premières fois et les premiers étonnements.
Vous savez combien de pèlerins, chaque année, j'ai dit quelques milliers, parce que je ne savais pas exactement combien de pèlerins font cette marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle ou même arrivent à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est pas pareil, j'imagine.
C'est pas pareil. Combien, c'est assez difficile à dire, puisque aujourd'hui, le pèlerinage se fait presque quasiment à la carte. On peut partir pour plusieurs mois comme on peut partir pour une semaine. Par contre, les chiffres officiels qui sont donnés par Compostelle, par le bureau de Compostelle, le bureau des pèlerins, c'est pour l'année 2013, j'ai le chiffre, c'est 215 000. Mais ce sont, bien souvent on oublie, ce sont des pèlerins à pied. Parce que le pèlerinage de Compostelle, en fait, c'est peu arrêté. Enfin, et depuis, entre les deux guerres, il y a des tas d'autocaristes qui emmènent les pèlerins à Compostelle.
On va raconter ces différents pèlerins qui arrivent à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais déjà, tout bêtement, c'est où Saint-Jacques-de-Compostelle?
Alors, Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est très loin, c'est au bout du monde, puisque c'est en Espagne.
Le pour pays, nous, c'est loin, au bout du monde.
Non,
c'est pour ça qu'ils habitent.
C'est pas que pour vous, c'est un peu pour tout le monde, parce que c'est en Galice, et la Galice, c'est une fin de terre celtique.
Et c'est la Bretagne espagnole, c'est ça?
C'est la Bretagne espagnole, et c'est aussi l'endroit où il y a une ville qui s'appelle Fisterra, ou Finisterra, et qui est le point le plus occidental de notre continent.
Ce jeudi de l'Ascension, c'est une date de départ pour les pèlerins de Saint-Jacques ou pas particulièrement?
Pas particulièrement, mais à partir des premiers beaux jours et du printemps, les pèlerins qui se rendent à Compostelle, je dirais au long cours, commencent à partir, effectivement.
Parce qu'il faut combien de temps, tiens?
Alors, ça dépend d'où vous partez.
On part, de son rythme.
On part de n'importe où. On part de Moscou, on part de Belgique, sûr. On part d'Angleterre, on part d'Italie, on part de Roumanie. Voilà. Alors aujourd'hui, des moscovites, il n'y en a peut-être pas beaucoup. Mais tout dépend de l'endroit où vous partez. Si vous partez de Paris, il y a 2000 km à peu près. 1800.
C'est ce que vous aviez fait?
Non, pas du tout.
Vous étiez parti d'où?
Alors je suis parti de Soulac-sur-Mer parce que c'est une voie qui n'était pas usitée depuis 5 siècles que j'ai suivie. En France, c'est dans le Médoc, dans l'angle du Médoc, là, qui est juste en face de Royan. Mm-hmm. Donc j'ai descendu le long de cette côte, donc une voie qu'on appelle la voie des Anglais en suivant la piste des Allemands. C'est assez compliqué.
Tout à pied ?
C'est l'Europe.
Ah oui, tout à pied, absolument. Et ensuite, en Espagne, j'ai aussi repris. Alors aujourd'hui, le chemin est un peu plus ouvert, mais un chemin qu'on appelle le Camino del Norte, et qui lui aussi n'était pas usité. Enfin, il y a toujours quelqu'un, hein, bien sûr, mais n'était pas usité depuis 8 siècles.
Voilà. Et donc, ça vous a pris combien de temps ?
43 jours pour 1300 km.
Et vous avez voulu passer par ces chemins inusités pour être particulièrement seul ?
Il y a plusieurs motivations. La solitude en était une, mais c'était aussi le fait que, même si je ne l'avais pas pratiqué, ce qu'on nomme le Camino Francés, qui a comme surnom l'autoroute à pèlerins, ne me convenait pas du tout.
Et en plus, le Camino Francés, c'est l'unique chemin finalement qui part des Pyrénées.
Alors,
et qui arrive à Saint-Jacques.
Des Pyrénées, parce que nécessairement, on est obligé de traverser les Pyrénées.
Mais tous les chemins convergent.
Ils convergent. Alors, tous les chemins convergent, enfin tous, disons que... On considère que les chemins convergent à Roncevaux, mais tous les chemins ne convergent pas nécessairement à Roncevaux.
On va commencer par la fin, le Graal, puisque vous, Philippe Lemonnier, vous avez eu la chance d'arriver jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle, qu'on appelle Santiago de Compostela, c'est en Galice, en Espagne. Qu'est-ce qu'on voit quand on arrive ?
En fait, pas grand-chose, je dirais.
On voit pas grand-chose. Première déception.
Oui, c'est toujours une déception en arrivée. Même s'il y a sur le moment, il y a de l'émotion, il y a des gens qui ont l'émotion facile éventuellement, soit parce que c'est de la dévotion, soit parce que c'est la fin du voyage. Mais la première chose, c'est quand même une sorte de déception, même
parce
si...
Parce que c'est pas beau, parce qu'il n'y a rien à voir.
L'arrivée sur Compostelle en elle-même n'est pas très bon. On arrive dans une ville de 100 000 habitants avec une zone industrielle, une zone commerciale. Donc il y a quand même une grande déception.
On voit déjà d'abord un supermarché, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Donc il y a déjà une grande déception quand on arrive, même si effectivement on est sur le Montjoie et que du Montjoie, c'est-à-dire la colline qui domine Compostelle, on peut apercevoir le haut du clocher de la cathédrale. Voilà. Mais on a quand même à traverser cette ville et ça fait toujours un choc, tout au moins pour moi qui avais voyagé 1000 km sans voir un seul pèlerin et en pleine montagne, ça fait toujours un choc d'arriver dans une ville qui est une ville moderne. Et il y a la même ville qu'on a nous en banlieue, la même structure. Par contre, après, c'est vrai qu'on rentre dans ces villes et on arrive au cœur de la ville, au cœur moyenâgeux de la ville. Et là, effectivement, on reprend un petit peu espoir.
Il faut dire que, Philippe Lemonnier, qu'on arrive à Saint-Jacques pour voir le tombeau de Saint-Jacques. Justement, dans un instant, vous allez nous dire, dans la curiosité, qui est Saint-Jacques, pourquoi il fait marcher autant de monde depuis plus d'un millénaire.
Vous écoutez RTL.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Ce soir, on pèlerine vers Saint-Jacques de Compostelle avec notre guide, le marcheur, l'écrivain, le voyageur, le pèlerin Philippe Lemonnier. Qui est Saint-Jacques ? Saint-Jacques de Compostelle, c'est la ville donc, qui est en Galice, vers laquelle tous ces pèlerins marchent en masse pour des raisons personnelles, professionnelles. Vous nous avez raconté
religieuse.
Que religieuse, évidemment, vous nous avez raconté que vous, c'était par solitude. Notamment, qui est ce Saint-Jacques ?
Alors Saint-Jacques, c'est Jacques le Majeur et c'est un personnage dont qu'on identifie que depuis peu, parce que jusqu'à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, entre Saint-Jacques le Mineur, Saint-Jacques le Majeur, il y a une grande confusion des personnages. Saint-Jacques le Majeur, c'est, pour le situer, un des compagnons de route de Jésus. C'est le frère de Jean l'Évangéliste et c'est un des compagnons les plus proches. Enfin, certains disent que c'est un des compagnons les plus proches de Jésus.
C'est l'un des apôtres.
Un des apôtres.
Oui.
Je pensais l'avoir dit, excusez-moi.
Non, mais
un des apôtres. C'est un des apôtres,
avoir bien compris.
C'est un compagnon de route, oui. Alors, oui. C'est un des 12 apôtres qui va accompagner Jésus avec son frère Jean l'évangéliste. Et sont les deux premiers ou tout premiers que Jésus appelle lorsqu'il décide sa marche vers Jérusalem.
Ah, pourquoi il devient Saint-Jacques une légende vivante ?
Peut-être parce qu'on parle très peu de lui dans les évangiles. Dans les évangiles, il est juste dit globalement que Hérodote fit trancher l'attaque de Jacques, frère de Jean. Par contre, la légende et tout la légende s'est emballée et il y a des milliers d'écrits sur Saint-Jacques. Et alors pourquoi cette légende ? D'une part, parce que peut-être c'est déjà un personnage important qui était proche de Jésus. Et puis après, j'aurais tendance à dire, entre Pierre, Paul et Jacques, très peu de gens sont capables de citer les apôtres, même alors que Paul n'est pas un apôtre. Donc il y a Pierre, Saint-Pierre à Rome, qui a été crucifié la tête en bas, et puis Saint-Jacques, dont un certain nombre de textes, et notamment le Codex, et également le Jacques de Voragine, ont écrit sur leur légende.
Donc Saint-Jacques a donné l'apôtre de Jésus, l'un des apôtres de Jésus a donné le nom à Saint-Jacques de Compostelle, cette ville en Galice, mais il y a aussi son tombeau, c'est ça, à Saint-Jacques de Compostelle ?
Alors, il y a ce qui est tout au moins réputé de son tombeau. Même si aujourd'hui, la plupart des historiens, même les historiens chrétiens, estiment que ce n'est pas le tombeau de Saint-Jacques. Mais ce n'est pas très important. Celui qui marche, il marche vers une idée, vers un lieu.
Attends, vous êtes en train de nous dire que tous les gens qui marchent vers Saint-Jacques de Compostelle marchent vers un tombeau qui n'est peut-être pas là.
C'est
deuxième déception.
Oui, deuxième déception.
Le supermarché de Compostelle. Le tombeau de Saint-Jacques qui n'est pas là ?
Si, Denis, l'important, c'est le cheminement, c'est le chemin et c'est le symbole.
Oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure quand j'ai répondu rien quand on arrive à Compostelle, parce que c'est vrai que l'essentiel, on l'a, enfin, me semble-t-il, ça c'est ma vision, l'essentiel, on l'a vécu sur le chemin et on le vivra après dans les mois qui suivront le retour.
Ça veut dire que c'est une expérience qui vous transforme ?
Ah, je crois, quelle que soit la raison pour laquelle on part, qu'elle soit confessionnelle ou non, d'abord le chemin est spirituel, même s'il n'est pas confessionnel pour certains, et d'autre part, si on est parti au long cours, c'est un chemin initiatique, absolument.
Compostelle pour les nuls, c'est ce que vous publiez aux éditions First avec l'historien de l'art Olivier Seb. On peut faire le chemin, le pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle sans être croyant, sans être catholique ?
Alors, c'est deux questions différentes que vous posez là. La religion et le fait d'être croyant. Qu'on puisse faire le chemin sans être croyant, oui, puisque j'ai fait le chemin. Donc, je pense qu'on peut le faire. Après, sans être catholique ou sans être de culture judéo-chrétienne, oui, il y a, je crois, 140 nationalités qui arrivent à Saint-Jacques-de-Compostelle et ça m'étonnerait qu'ils soient tous de culture catholique, loin de là. Donc, on peut faire le chemin. Il y a plusieurs raisons à ça, mais effectivement, on peut qui a envie de prendre le chemin, qui a envie d'emprunter le chemin, peut le prendre.
Mais qui, vous dites qui, donc effectivement, n'importe qui peut décider de partir sur le chemin de Saint-Jacques, mais moi, c'est le quand qui m'intéresse maintenant. Ça fait combien de temps qu'on part comme ça, marcher vers Saint-Jacques de Compostelle ?
Ça fait environ 11 siècles que l'on part. On a découvert le tombeau, enfin les historiens nous disent, je ne suis pas historien, je suis raconteur d'histoire, c'est pas tout à fait la même chose. Les historiens disent que le tombeau a été découvert au début du 9e siècle, en 818 ou 832 selon les historiens, que les premiers pèlerins enregistrés passent vers la fin du 10e siècle en 900 et quelques, et depuis on marche toujours sur Compostelle. Et ce qui est assez extraordinaire d'ailleurs, de se dire que depuis 1000 ans, un peu plus de 1000 ans, on marche vers un même lieu. Alors, avec plus ou moins de bonheur selon les siècles, mais on marche toujours.
Et quelle forme prenait le pèlerinage ? C'était une forme similaire à celle d'aujourd'hui ou il fallait forcément marcher très longtemps ? Est-ce qu'il y avait des gens qui faisaient Saint-Jacques en plusieurs étapes, puisqu'on peut faire le chemin de Saint-Jacques en plusieurs étapes. On peut y aller, marcher trois semaines, revenir l'année d'après, etc.
C'est une notion tout à fait récente qu'on puisse
mercantile, presque.
qu'on fait ça par tronçon.
Adapté au temps moderne.
Voilà,
c'est ça,
au Moyen-Âge, où vous partez, vous partez pas.
Bien
mais
sûr.
Si vous partez, vous n'avez pas de téléphone, vous n'avez pas d'ambulance, vous n'avez pas de cabine téléphonique,
évidemment.
Vous n'avez rien du tout, vous êtes parti. Donc, est-ce qu'on fait de la même façon aujourd'hui qu'hier ? Non, parce que les conditions ne sont absolument pas les mêmes. Mais je pense que la démarche spirituelle peut-être aussi forte aujourd'hui.
Mais Philippe Lemonnier, j'ai lu dans Compostelle pour les nuls aux éditions First que les pèlerins à cette époque, au début, les premiers pèlerinages, c'était des pénitents. On devait par exemple faire le retour avec des coquilles sur les genoux, il fallait ramper sur ses genoux, ça c'était...
Alors ça, vous n'avez pas pu le lire dans Compostelle pour les nuls.
Ah, ça, c'est ma culture générale, alors je suis désolée.
Je suis désolée. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Il y a des exemples, par exemple à Fatima, où les femmes, notamment les femmes, montent les marches à genoux. À Vilnius aussi, en Lituanie, je les ai vus. En Asie, certains font le chemin quasiment en plongeant devant eux.
Mais la coquille Saint-Jacques, la coquille...
Mais sur le pèlerinage de Compostelle, je n'ai jamais entendu dire ni vu de gens qui faisaient le pèlerinage à genoux.
Donc la fameuse coquille Saint-Jacques.
Elle vient pas de là.
Ah, pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est une des choses dont on ignore complètement l'origine de la coquille Saint-Jacques.
Une idée reçue qu'on a fait tomber.
Ça tombe bien.
Ce soir.
On est là pour ça, on chasse les idées reçues. Et moi, j'aimerais bien, parce que c'est un projet qui me titille. Je vous avoue tout.
Il faut partir.
De faire le chemin de Saint-Jacques.
Tant mieux, Thomas, parce que dans un instant, on va vous proposer plusieurs chemins.
Voilà.
On va vous les décrire.
C'est ce que j'attends
de cette soirée. Et puis, vous choisirez, puis on vous suivra. À tout de suite dans la curiosité.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Quatre routes mèneront vers Compostelle, mais la principale démarre de la petite ville, aussi célèbre par ses lentilles vertes que par sa dentelle, le Puy en Velay.
RTL.
Eh bien, je vous souhaite une bonne route à tous, et que Saint-Jacques vous protège.
Jusqu'à 22h.
Moment important avant le départ. La distribution de la crédentiale, véritable passeport du pèlerin.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et depuis 20h, on a chaussé des bonnes chaussures, on a un sac à dos, une réserve d'eau.
Merci de porter le mien, Thomas.
Évidemment, oui, il est un peu lourd quand même. On marche vers Saint-Jacques-de-Compostelle avec notre invité Philippe Lemonnier. Vous décrivez vous-même comme un écrivain voyageur et vous publiez avec Olivier Seb, qui est historien de l'art, Compostelle pour les nuls, chez First. Alors, moi, je disais tout à l'heure que ce projet, mais c'est un projet, j'ai du mal à oser me lancer en fait. Il y a beaucoup d'amis qui l'ont fait, qui sont partis sur le chemin de Saint-Jacques et qui sont revenus transformés. Donc c'est un projet qui me titille. Si je dois partir, quel chemin je choisis ? C'est quoi la meilleure route ?
Je ne sais pas s'il y a une meilleure route, mais la route qui serait tout indiquée, c'est de partir de chez vous. Le pèlerin, il part de chez lui. Non,
ouais.
Non, mais il part de chez lui depuis le Moyen-Âge. Il n'y a qu'aujourd'hui qu'il y a des points de départ qui sont des constructions très contemporaines. J'entendais parler du Puy-en-Velay. Ce sont des constructions qui sont très contemporaines, les chemins actuels.
On parle de quatre chemins principaux.
Oui,
ça veut dire que c'est des constructions récentes, ça ? C'est
non,
presque des constructions
non,
commerciales ?
Non. On pourrait dire ça. Le pèlerin a toujours été une vache à lait. Donc, même au Moyen-Âge, c'est décrit d'ailleurs dans le livre dont je vais parler, le Codex, où on raconte que, notamment dans le sud de la France, enfin dans le sud-ouest, les aubergistes viennent au-devant des pèlerins, les embrassent comme si c'était leur cousin, leur promettent la meilleure chair, le meilleur vin, et leur serrent la viande avariée et la piquette. C'est pas nouveau et ça continue même aujourd'hui. Donc, pour répondre à la question, dans le Codex, qui est un ouvrage qui a été rédigé au XIIe siècle par, a priori, un abbé qu'on appelait Émeric Picot, il décrit quatre chemins de Tours, enfin celui de Tours, celui de Vézelay, celui du Puy, celui d'Arles. C'est une description qui a été faite à ce moment-là. On ignore la raison profonde de ce texte. Pourquoi il a été écrit ? Parce que c'est un manuscrit, il est enfermé. Il faut quand même se rappeler qu'au Moyen-Âge, peu de gens savent lire. Donc il n'y a pas de guide de pèlerin, comme j'ai pu entendre à certains moments. Ce texte-là reste un texte relativement secret, confidentiel. Et depuis, tout le monde s'est attaché à reconstituer, enfin tout au moins à l'époque moderne, de reconstituer ces chemins. Mais il faut se dire quand même que quel que soit le lieu où on vient, on ne tombe pas en parachute à Tours, on ne tombe pas en parachute à Vézelay, pas plus au Puy-en-Velay qu'à Arles. Donc ce sont des points de départ conventionnels construits aujourd'hui et je dirais avec un côté ce qu'on appelle le tourisme religieux.
C'est-à-dire que si on choisit Philippe Lemonnier, si Thomas Hugues par exemple, qui aimerait bien faire pèlerinage, choisit son propre chemin qui n'a rien à voir avec ces quatre fameuses voies, il est quand même, on dit Jacquet, c'est ça ? Il
fait quand Jacquet, même, absolument.
Il est quand même pèlerin. Je crois qu'il fallait respecter la flèche. Quoi.
Trop de gens pensent que... Écoutez, si, parce que là, je vais être un peu sec, mais c'est la réalité.
Allez-y.
Si suivre un GR, qui est une construction tout à fait moderne d'après-guerre, est le fait de donner une valeur au pèlerinage, il y aurait quand même un problème.
Il faut quand même aller vers Saint-Jacques-de-Compostelle, Philippe Lemonnier. Ou si
écoutez,
je marche et je vais...
Écoutez, je ne vais pas dire non parce qu'on parle de Saint-Jacques-de-Compostelle et de Compostelle pour les nuls. Mais je pourrais vous répondre non. Celui qui aurait le courage, parce que c'est ça peut-être aussi la difficulté, de partir au long cours sans balisage, se retrouverait dans les mêmes conditions, livré à lui-même. Et c'est peut-être, c'est à partir de ce moment-là que peut commencer une certaine démarche spirituelle.
Vous nous avez dit tout à l'heure que cette destination est devenue une destination pour les pèlerins depuis 11 siècles, depuis le 9e siècle. Aujourd'hui, c'est l'un des trois grands pèlerinages de la chrétienté avec Jérusalem et Rome. Est-ce que ça a tout de suite été un pèlerinage important ou est-ce que ça a pris plusieurs siècles pour le devenir ?
ça tout de suite, enfin, ça, quand même l'information, entre le moment où on découvre le tombeau, enfin tout au moins on invente le tombeau et le moment où il y a les premiers pèlerins réellement recensés, il se passe quand même 150 ans, le temps que l'information arrive. Mais ça va quand même relativement assez vite parce que dès le, en plein 12e siècle, encore une fois, selon les historiens, on est vraiment dans, quasiment à l'apogée 12e, 13e et 14e siècle du pèlerinage. Mais ça correspond aussi à une situation historique. C'est un moment où, globalement, la géopolitique européenne est à peu près figée. C'est un moment où toute l'Europe se met en marche. Les marchands se mettent en marche. On commence à créer le gothique, c'est-à-dire que l'Europe s'élève et on élève également les monuments. Donc, toute l'Europe se met en marche. On crée les universités, les professeurs se mettent en marche, vont à pied. On va à pied de Rome à Paris, les clercs également pour les étudiants. Donc tout ce mouvement-là va permettre effectivement l'émergence d'une catégorie de personnes, de pèlerins. Alors évidemment, on peut imaginer, même si là-dessus la controverse existe, que l'effet millénariste eschatologique a pu jouer.
L'effet millénariste.
L'effet millénariste, d'accord.
Eschatologique, c'est-à-dire au moment où on est passé au millénaire. Mais en finalité, très peu selon la plupart des historiens.
Alors Philippe Lemonnier, on a bien compris, il n'y a pas un nombre précis de chemins vers Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est un peu le chemin de son cœur finalement. Mais concrètement, il y a quand même quatre voies dont on parle beaucoup en France. Il y a la voie du Puy-en-Velay, de Vézelay et aussi la voie la voie d'Arles. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est la plus célèbre, c'est la voie de Paris, c'est ça ? On part de Paris, de la Tour Saint-Jacques ?
Ces quatre voies que vous évoquez, elles existent effectivement, et elles existent parce qu'elles sont structurées.
Organisées, ça veut dire qu'il y a des habitats, des
ça veut dire qu'il y a des hébergements maintenant, ça c'est une première chose. Ça veut dire qu'il y a des capacités d'hébergement qui existent, et qui existaient au Moyen-Âge. Parce que si vous regardez un petit peu la carte de France, en réalité, la route de Tours, c'est celle effectivement qui part de Paris, enfin, tout au moins qui passe par Paris, parce que quand on vient de Bruxelles, on passe par Paris, on ne départ pas de Paris, on va là-bas. Donc, c'est celle qui suit la vallée qui est sur l'ouest de la France, c'est-à-dire là où c'est une plaine. La voie de Vézelay, c'est celle qui passe au-dessus du Massif central, en partie tout au moins. La voie de Dupuy, c'est celle qui passe sous le Massif central, en partie également. Et puis celle d'Arles, c'est effectivement celle qui vient d'Italie. Il n'y a pas de chemin de pèlerin. On est sur des voies naturelles de communication. Et le pèlerin, il n'a pas un chemin secret. Le pèlerin, il n'est pas non plus un randonneur au Moyen-Âge. Il prend les grandes voies de communication qui existent. Et je conclurai sur la chose suivante. C'est que si vous voulez réellement reprendre les chemins de Compostelle, et qui partent à la fois de Tours, de Vézelay, du Puy et de Arles, suivez les nationales.
Thomas, vous voyez un petit peu plus clair dans votre choix de...
Oui, je vais essayer d'éviter les nationales quand même.
Alors dans ces cas-là...
De trouver des chemins moins usités et moins urbains, on va dire. Ça comme ça.
Et si je vous dis Thomas Ultreia, ça vous me répondez quoi ?
Ah, pour l'instant, je ne sais pas.
Ah, et ben on saura ça dans un instant dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ce soir, on pose plein de questions, on apprend plein de choses sur le pèlerinage vers Saint-Jacques de Compostelle. Déjà, on a appris qu'il n'y avait pas un chemin, ni quatre chemins, mais des millions de chemins, ça dépend.
Chacun peut se créer son chemin.
D'où on vient, par où on a envie de passer. On en parle avec notre guide Philippe Lemonnier qui me fait des signes, qui me dit tout converge, hein, c'est ça.
Oui, oui, en fait, ce sont des rivières. Le pèlerin, il part de chez lui, il va rejoindre de son chemin où il habite, il va rejoindre la petite route, et de la petite route, il va rejoindre la grande route, et de la grande route, il va rejoindre les voies de communication qui existaient ou qui existent, et qui effectivement passent sur les grandes voies, les quatre grandes voies qu'on évoquait, sachant que ce sont plus des étapes dont on a le souvenir, puisqu'elles ont été écrites, elles ont été décrites par Aymeric Picot au XIIe siècle. Ce sont plus les étapes dont on garde le souvenir que le chemin par lui-même.
D'ailleurs, évidemment, sur ce chemin, on croise d'autres pèlerins. Et je lis dans Compostelle pour les nuls chez First, que vous publiez avec l'historien de l'art Olivier Seb, qu'il y a deux injonctions magiques à connaître et à dire sur le chemin. C'est Ultreia et Olla. Ça veut dire quoi ?
Alors, on croise très peu de pèlerins parce qu'ils vont tous dans le même sens.
Sur le chemin de Compostelle. Ah oui, vous avez raison. Oui, mais si on les dépasse, une petite accélération.
C'est une des raisons que j'évoquais tout à l'heure. Donc pour laquelle je n'ai pas pris le chemin principal, enfin, ce qu'on appelle le Camino français. Après, oui, ça, bon, j'ai écrit ça, cette partie-là, pour un petit peu, pour des clins d'œil. Effectivement, Ultria, c'est un peu une sorte de, ça veut dire ultre, plus haut, plus loin. C'est un petit peu le cri de reconnaissance des pèlerins entre eux, soit quand il y a une difficulté, parce que
c'est ça vient d'où ça, Ultria?
Alors, on ne sait pas très bien. Non, on ne sait pas très bien l'origine de ce mot qui n'est pas vraiment du latin, qui est quelque chose matiné entre du latin et du vieux français.
Bon, oh là, donc, j'imagine
que ça vient Ultria, ça vient quand même du mot outre,
l'autre,
outre,
au-delà, passer outre,
au-delà.
D'accord.
Voilà. Donc c'est à la fois un encouragement que l'on peut avoir ou que les pèlerins, certains pèlerins lancent au moment où ils ont des côtes, des difficultés, et c'est aussi le fait lorsqu'on croise, tout au moins lorsqu'on rencontre un autre pèlerin.
Qu'on dépasse un pèlerin.
Voilà, qu'on dépasse un pèlerin. C'est une forme de salut. Et quant au mot.
En pole position.
Quant à hola, en fait, c'est le salut, enfin, c'est bonjour en
bonjour.
Espagnol.
Bonjour,
bien sûr.
Et je pense, enfin, tout au moins quand on est à pied, qu'on se doit de saluer les gens que l'on croise. Alors cette fois-ci, on les croise.
Et par vous êtes tatillon, Philippe Lemonnier. Mais on aime ça.
Mais du coup, ça m'a inspiré une question parce que. On a reçu un grand marcheur qui a eu, après avoir fait le chemin de Saint-Jacques, l'idée de créer une association qui vient en aide aux jeunes délinquants. Voilà, merci de retrouver son nom et qui nous a. Et c'est lui, en l'entendant, qui m'a donné envie de partir dans ce projet. Et il disait que l'idée de son association qui vient en aide aux jeunes délinquants lui est venue sur le chemin de Saint-Jacques parce que il a su que quelques kilomètres au devant de lui marchait un accompagnateur belge avec trois jeunes délinquants. Est-ce qu'on a comme ça l'écho de ceux qui nous précèdent quand on marche vers Saint-Jacques ?
Disons qu'il y a plusieurs
éléments. Il se passe quelque chose devant nous, vous voyez ce que je veux dire ?
Il se passe quelque chose devant nous. On l'a d'abord parce que sur le Camino français que vous évoquez, donc le chemin
principal,
il y a des étapes qui existent. Il y a des auberges de pèlerins, il y a des livres d'or, il y a un certain nombre de choses. Donc quand on arrive à un endroit, à la fois on peut lire le livre d'or de la veille ou des jours précédents, mais également il y a une sorte de buzz qui se fait. On se raconte les histoires. S'il y a un personnage ou quelque chose de particulier qui se passe sur le chemin, la tenancière ou le tenancier ou ceux qui sont restés sur place n'hésitent pas, ou même les cafés dans la ville n'hésitent pas à raconter que la veille ils ont vu ceci, qu'ils ont vu cela.
Ça vous est arrivé ?
Voilà.
Vous avez, oui, parce que vous aviez choisi des chemins
fois,
un peu de traverse.
À part les 100 derniers kilomètres, je suis sur des chemins de traverse. Mais bon, je l'ai quand même vécu sur les. Je suis bien obligé à un moment de rejoindre ce fameux Camino français quand je fais le voyage. Et là, pendant 100, 120 kilomètres, je vis réellement. Mais c'est pour moi une catastrophe parce que quand j'arrive à Palace de Ré, j'espère que les auditeurs excuseront mon accent, enfin ma prononciation du.
Ils sont habitués à notre accent anglais pourri depuis la saison. Vous inquiétez pas.
J'arrive à Palace de Ré, j'ai croisé deux pèlerins, trois pèlerins. Un Allemand qui est un collectionneur de chemins. Donc lui, c'était son quatrième chemin. Il avait fait le Portugal, la Voie de la Plata, enfin bon, etc. Et puis deux pèlerins allemands qui s'étaient trompés de ville. Ils avaient confondu Bilbao avec Burgos. Mais je n'ai croisé que trois pèlerins en 1000 km. Et quand j'arrive sur le chemin, dans la ville, il y a 300 pèlerins. Et pour moi, c'est une catastrophe. Tout d'un coup, je suis perdu. Voilà, je suis perdu.
Philippe Lemonnier, vous êtes venu avec, je me permets de regarder vos affaires, mais un petit carnet avec une coquille Saint-Jacques dessus. Est-ce que c'est ce fameux carnet de pèlerin, le crédentiel? Oula, je vous entends fâcher.
Non, je réfléchis à ce que vous dites. Non, c'est un autre ouvrage que j'ai écrit, mais on n'est pas là ce soir pour en parler, qui est le carnet du marcheur de Compostelle, qui est un carnet effectivement que j'ai rédigé et que j'ai écrit, qui permet à la fois dans lequel il y a un certain nombre d'éléments et puis des pages pour écrire. Mais c'est un carnet de marcheur. L'approfondissement qu'a Compostelle Poney Nul.
C'est quoi le carnet de pèlerin dont on parle? Alors, crédentiel.
C'est autre chose. La crédentiale, ça vient d'un mot qu'on connaît en français qui s'appelle l'accréditif. Donc,
ça ne nous éclaire pas beaucoup plus, nous. Mais...
Je vais y arriver. Ouais. J'arrive. Laissez-moi, j'arrive à pied.
On fait des gros yeux.
J'arrive
là.
À pied. Laissez-moi arriver.
Je suis en voiture, là.
Là, quand je fais ces yeux-là, c'est que je n'ai pas compris.
il ne vous a pas échappé que le droit de circuler, c'est quelque chose de très nouveau. Très rarement eu le droit de circuler dans toute l'histoire. Les dernières fois, encore à la dernière guerre mondiale, il fallait un Ausweis, je crois que ça s'appelait, pour circuler. Et donc, au Moyen-Âge, même après, jusque très tardivement, mais même jusqu'à la fin du 19e siècle, vous ne circulez pas en Europe et notamment en France sans aucun document qui vous autorise à circuler et à passer les différents départements, quand on a créé les départements, aux différentes provinces. Donc, le pèlerin qui part reçoit l'autorisation à la fois des autorités ecclésiastiques et des autorités royales de circuler. Et donc, c'est ce qu'on appelle la crédentiale.
Donc, c'est un passeport, finalement.
C'est une sorte de passeport. Et après, et juin de nos jours, même peut-être à l'époque aussi, ce qu'on appelle le carnet du pèlerin, qui est en fait une sorte de... Enfin, aujourd'hui, c'est une feuille sur laquelle il y a des cases, et puis à chaque étape, c'est tamponné. Alors, ça peut être le curé, le maire, le gars qui tient l'auberge, qui tamponne, ce qui fait que lorsqu'on arrive à Compostelle, on peut prouver aux autorités compostelanes que l'on a fait le chemin, et à ce moment-là, recevoir un autre document qui s'appelle la Compostola, qui est un document rédigé en latin qui atteste comme quoi vous êtes arrivé à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Et ça, ce n'est pas du commerce.
Qu'est-ce que vous entendez par le fait que c'est du commerce ou c'est pas du commerce ?
Est-ce qu'il faut l'acheter ?
Est-ce qu'il faut l'avoir ? Est-ce qu'il faut l'acheter ? Est-ce qu'on peut s'en passer ?
On peut s'en passer à condition d'accepter en Espagne de ne pas pouvoir dormir dans les auberges de pèlerins.
Merci à vous. Et pour Philippe Lemonnier.
Ah, vous avez fait quoi, hein ?
Et pour toutes les informations pour les gros nuls comme moi.
Que nous sommes.
Compostelle pour les nuls, c'est aux éditions First Edition avec votre co-auteur Olivier Seb. Et
moi, merci beaucoup. On fait faire un petit tour dans
les
jardins, non ?
Je vais aller prendre l'air, je vais aller cultiver des cucurbitacées, des courges, des orchidées.
Et même du cannabis.
Du cannabis aussi, ça va nous faire du bien. A tout de suite dans la curiosité.
Vous écoutez RTL.